Des élèves de terminale du lycée Saint-Pierre vous présentent « Passe ton bac d'abord ».
Revoyez des grands thèmes du monde après 1945.
Bonjour et bienvenue, je suis Noémie.
Et je suis Clémence. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le programme de géographie, plus précisément sur la mondialisation.
Il faut savoir que la mondialisation au bac peut tomber en sujet majeur comme en sujet mineur pour toutes les séries. Il peut donc faire l'objet de la composition, de l'étude de documents ou du croquis.
Mais c'est quoi la mondialisation ?
La mondialisation ou globalisation, d'après le dictionnaire Le Robert, est le fait d'exister, de se répandre dans le monde entier. Pour nous guider, nous avons rencontré Friedrich von Kirber, directeur du Centre international de commerce de l'ONU pendant près de 30 ans. Voici sa définition.
Pour moi, la mondialisation implique d'avoir, comme tous les citoyens, accès à des biens et à des services, à des informations de partout dans le monde.
Pour résumer, c'est l'amplification de tous les échanges, qu'ils soient matériels, un échange de marchandises comme du coca ou des jeans, ou immatériels, un échange d'argent.
Aujourd'hui, on vous propose une fiche de révision en commençant par le processus qui a permis d'aboutir à ces dynamiques.
Nous verrons ensuite quels acteurs sont en jeu dans la mondialisation, avant de terminer par les conséquences de ces échanges.
Radio B.
Le terme mondialisation a été employé pour la première fois en 1904, mais il reste rarement employé avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec la révolution industrielle au XIXe siècle, les populations deviennent beaucoup plus mobiles. Forcément, les échanges entre nations sont facilités.
Pourquoi la mondialisation ne s'intensifie qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale ?
Avant la Seconde Guerre mondiale, on observe un climat de méfiance entre les différents pays. Personne ne se fait vraiment confiance et on est plus dans une dynamique de repli sur soi-même et de protectionnisme.
Pourquoi ?
Déjà en 1929 survient la crise économique, souvent appelée la Grande Dépression. En plus, la montée du nationalisme et du fascisme favorise le repli sur soi. La marche à la guerre est entamée. Donc évidemment, il n'est pas vraiment question d'échange à grande échelle.
Et pourquoi ça change après la Seconde Guerre mondiale ?
Après cette dernière, beaucoup de pays essayent de relancer la mondialisation. Mais ces tentatives sont entravées par les décolonisations et la guerre froide, qui isolent le bloc soviétique des pays capitalistes, commercialement et culturellement. D'un autre côté, on a la création de l'ONU qui crée des liens entre les pays.
Comment ça évolue ?
Au début, il y a énormément d'échanges culturels, comme des films. Hollywood connaît même son âge d'or dans les années 50. Dans les années 70, avec la chute importante des prix des transports, les échanges commerciaux reviennent.
En 91, c'est la chute du bloc communiste. Quelles sont les conséquences ?
La chute du bloc soviétique et aussi l'arrivée d'Internet permettent une nouvelle intensification de la mondialisation pour parvenir à la situation actuelle.
Les acteurs de la mondialisation.
Friedrich von Kirber a travaillé plus de 30 ans aux Nations Unies. Un des acteurs de la mondialisation, c'est l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Comme beaucoup d'institutions des Nations Unies, elle établit des règles pour encadrer la mondialisation.
Par exemple, l'Organisation mondiale du commerce essaye de créer les mêmes règles pour tous les pays, indépendamment de leur poids, de leur pouvoir économique et politique. Et l'OMC, à mon avis, joue un rôle très très important pour assurer qu'un pays comme le Costa Rica ou l'Ouganda ou l'Indonésie ne soit pas dominé par des grandes puissances du commerce international comme les États-Unis ou la Chine ou l'Europe. Et en créant ce cadre de règles, j'ai pu voir souvent que c'est grâce aux Nations Unies, grâce à l'Organisation mondiale du commerce, que les conditions du commerce sont plus équitables qu'ils ne seront sans avoir ce règlement. Mais cela ne veut pas dire que les échanges sont justes. Il y a toujours des grosses différences. Ça, c'est clair. Mais c'est mieux que si on n'avait pas ces organisations.
L'ONU est un des acteurs majeurs de la mondialisation. Son rôle, établir des relations plus justes et équitables entre les pays.
Y a-t-il d'autres acteurs de la mondialisation ?
Oui, les firmes transnationales. On peut en citer quelques-unes. Apple, Total, Coca-Cola ou encore Danone. Les 80 000 firmes transnationales réalisent 2/3 du commerce mondial et 1/4 du PIB mondial.
Comment s'organisent-elles ?
En général, leurs sièges sont localisés dans les métropoles de la triade, c'est-à-dire au Japon, en Europe et en Amérique du Nord. Elles produisent dans les pays émergents ou moins développés et profitent de la main-d'œuvre à bas prix. Cependant, le clivage nord-sud n'est plus si évident. Avec l'émergence de certains pays du sud, on retrouve désormais des sièges de firmes transnationales dans de nouvelles villes comme Shanghai ou Mumbai.
Les firmes transnationales sont donc un des acteurs de la mondialisation. Qui sont les autres ?
On retrouve les États et dans la continuité, les unions étatiques comme l'Union européenne, l'ALENA en Amérique du Nord, l'Alliance Mercosur en Amérique du Sud. Ces unions permettent de faciliter les échanges entre les pays membres et leur assurent une place plus importante au sein de la mondialisation.
Les avantages de la mondialisation.
Moi, personnellement, je trouve super bien que je puisse avoir accès à la musique de l'Indonésie ou de la musique latino-américaine et que je peux voyager à ces pays et améliorer ma compréhension du monde. Et je trouve que c'est une très grande chance pour chacune, chacun de nous d'avoir cette mondialisation des connaissances. Je suis certain que ça contribue à une nouvelle culture mondiale qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant. C'est également important de protéger ses racines, son propre héritage culturel, mais pas d'une manière défensive, mais plutôt de le vivre, de l'échanger. Et on ne peut certainement pas réussir dans un monde mondialisé en fermant les yeux et les oreilles. Et je crois qu'en Europe, il y a pas mal des partis politiques, des mouvements qui ont l'impression qu'un isolationnisme sera la meilleure solution. À mon avis, c'est uniquement stupide.
Friedrich von Kirber nous parle de l'avantage culturel de la mondialisation.
Et y a-t-il d'autres avantages ?
Oui. On constate que, grâce à la mondialisation, le niveau de vie global a augmenté. Selon Friedrich von Kirber, en Chine par exemple, plus de 400 millions de personnes ont pu échapper à la pauvreté grâce à la mondialisation.
Friedrich von Kirber le précise aussi. Grâce à la mondialisation, on peut acheter des vêtements, des produits électroniques à des prix abordables. Ça ne serait pas possible si ces derniers étaient fabriqués en France. Dans cette situation, nous sommes gagnants. Mais la mondialisation n'est pas toujours juste pour tout le monde.
Les pays perdants sont surtout ceux qui n'arrivent pas à bien s'intégrer, qui dépendent simplement d'une ou deux produits, ressources primaires, comme le pétrole ou des minéraux, et où il y a en plus une mauvaise distribution des bénéfices de la mondialisation. N'est-ce pas? Si c'est uniquement une petite clique qui s'approprie tous les bénéfices et la population en général ne participe pas, ça rend encore plus difficile la distribution des revenus. Il y a des gens qui n'ont rien et il y en a d'autres qui ont trop.
Environnement, déséquilibre des richesses, la mondialisation est aussi remise en cause.
Un danger qu'il faut toujours voir, que la mondialisation accélère la croissance économique, et la croissance économique vient avec des fardeaux supplémentaires pour notre environnement, pour l'écologie. Et pour ça, c'est essentiel maintenant de bien intégrer les impératifs pour répondre au changement du climat et toute la disparition d'espèces, etc.
Ces risques sont aussi dénoncés par un courant opposé à la mondialisation, les altermondialistes.
On a parlé de la mauvaise répartition des richesses, notamment dans les pays moins développés et émergents. Mais elle représente aussi un risque pour les pays riches.
C'est-à-dire ?
Elle établit une concurrence déloyale concernant la main-d'œuvre, radicalement plus abordable dans certains pays. Les usines sont donc délocalisées. Quant aux conditions de travail dans ces pays où la main-d'œuvre est moins coûteuse, elles sont peu éthiques.
Friedrich von Kirber ajoute : la mondialisation crée une situation d'interdépendance entre les pays.
Il y a une interdépendance dans le succès et dans les crises. Et il faut trouver des mécanismes pour désamorcer les crises qu'il peut y avoir. Mais à vrai dire, je crois que les alternatives politiques sont plutôt une mondialisation avec des yeux fermés ou une mondialisation avec des yeux ouverts et conscients. Et je suis certain que la dynamique économique va continuer à faire évoluer la mondialisation. Ce qu'il faut maintenant avoir comme réponse, c'est au niveau des États, au niveau de la société civile, la culture, comment est-ce qu'on peut canaliser ces forces énormes de la mondialisation pour assurer qu'il y a des résultats pas trop inéquitables, pas trop nocifs pour l'environnement, pour notre culture, etc. Et je crois que c'est là où également la jeune génération aura un rôle très important à jouer.
Il paraît donc difficile de se détacher d'une mondialisation en phase avec notre mode de consommation, de vie et déjà trop ancré dans notre système économique.
À l'avenir, évoluera-t-on avec la mondialisation en gommant ses effets néfastes ou bien irons-nous vers un système économique différent ?
C'est la fin de cette chronique. Merci pour votre écoute.
À bientôt sur Radio B.
C'était « Passe ton bac d'abord »,
des chroniques proposées par des élèves de terminale du lycée Saint-Pierre.
Retrouvez-nous chaque mois sur Radio B et en podcast sur radio-b.fr.